Bonjour tout le monde. J'aimerais vous inviter à ouvrir dans Proverbe ce matin. Proverbe chapitre 4. On va regarder rapidement juste un passage qui va nous amener à faire un résumé, un petit résumé de ce qu'on a vu la semaine dernière. Encore une fois, cette semaine, on continue à parler d'un sujet qui nous est cher. Hein? On parle de la souffrance. Pourquoi je dis que ça nous est cher? Parce qu'on en vit tous. Et peu importe où ce qu'on est dans notre vie, ça nous arrive ou ça va nous arriver ou ça nous est arrivé également. Et puis, c'est important de prendre le temps de bien se préparer à nos souffrances, à se préparer aux souffrances de la vie, et puis à accepter que la parole nous remette en question par rapport à nos perspectives. Proverbe 4, verset 18, dit ceci. « Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante, dont l'éclat va croissant jusqu'au plein jour. » Donc, le sentier du juste est comme la lumière resplendissante, dont l'éclat va croissant jusqu'en plein jour, jusqu'au plein jour. D'autres versions, c'est le sentier du juste est comme la lumière de l'aurore, dont l'éclat ne cesse de croître jusqu'en plein jour. C'est un très beau proverbe qui nous rappelle justement cet élément-là qu'on a vu la semaine passée. La semaine passée, on a parlé de la marche, de marcher. Hein? On a parlé de la traversée. L'idée que la souffrance, elle est là pour qu'on la traverse, qu'on marche. La marche est un pas, quelque chose de répété et quelque chose de constant. Et quand on avance, quand on marche, on avance et on traverse ce qu'on a à traverser quand on marche d'une façon constante, toujours par en avant. Et quand on traverse, quand on marche avec Dieu, ben, comme on voit dans le proverbe, le sentier du juste. Le juste, c'est qui? C'est celui qui marche avec Dieu. C'est celui qui est droit devant Dieu, qui considère ses voies en fonction de la volonté de Dieu, en fonction de la personne de Dieu. C'est lui le juste. Et le juste, quand il marche avec Dieu, ben, son chemin, il y a comme la lumière qui grandit dans les ténèbres. Il y a une croissance, c'est quelque chose qui se passe. Et souvent, quand on est dans la souffrance, on fait beaucoup référence à marcher dans la noirceur, à marcher dans les ténèbres, à marcher dans la douleur. Et il n'y a que noirceur et ténèbres quand on est dans la souffrance. Il n'y a pas toutes les souffrances dans notre vie qui nous amènent dans cet état-là de ténèbres, mais il en a. Et d'une façon ou d'une autre, on se doit de les... On n'a pas le choix. On a à traverser ces moments-là. Parce que si on arrête de marcher, qu'est-ce qui se passe? On sombre. On ne s'en sort pas. Et nos souffrances deviennent fatales dans nos vies. Notre désespoir devient fatal. Et l'idée de marcher, ben, il y a cet élément-là de progresser dans la noirceur. Et de se rappeler ce qu'on a vu la semaine passée, que nous ne sommes pas seuls dans nos souffrances. Jésus-Christ est celui qui fait la différence dans chacune de nos souffrances. La perspective qu'on a quand on souffre, que nous sommes seuls, est un mensonge. C'est qu'on oublie à ce moment-là. On oublie qui est Jésus-Christ et qu'est-ce que Jésus-Christ a fait et qu'est-ce que lui-même a traversé. Jésus a traversé les souffrances. Jésus a traversé ces temps de ténèbres. Et ce qu'il a enduré au-delà de ce que nous-mêmes, on n'endurera jamais. Jésus-Christ étant Dieu, sa douleur a été infinie. Puisqu'il a porté tous nos péchés dans ce moment-là, bien, c'est infini comparativement à ce que nous, on a vécu, ce que nous, on a subi. Donc, Jésus qui marche à nos côtés, qui est présent avec nous, est en mesure de nous comprendre. est en mesure d'être avec nous et d'avoir une présence qui fait la différence. Avez-vous déjà eu des gens dans votre vie qui étaient présents pendant que vous étiez en train de souffrir, mais qui ne faisaient pas la différence ou que la différence qu'ils faisaient n'était pas positive? Ça vous est-il déjà arrivé d'avoir des gens qui se croient de bons conseils, mais qui en réalité... Et que j'ai hâte que tu t'en ailles puis que tu me laisses tranquille. Es-tu fini, là, ton café, là? Tu peux y aller, tu peux passer à autre chose. Merci, bonsoir. Hein?
Prends des Tylenol.
Prends des Tylenol, oui. Mais, parce que des fois, dans nos souffrances, écoutez, il y a des gens qui ne comprennent vraiment pas, qui sont pas habiles, puis qui vont penser te faire du bien, mais en réalité, ils rajoutent à ta souffrance. Moi, j'ai déjà été ça pour bien du bon. Je comprenais pas l'élément de la souffrance, si on peut dire, l'élément émotionnel derrière tout ça. Et pour moi, le plus vite qu'on pouvait se débarrasser de ça, ben le mieux, t'allais t'en retrouver, tu comprends? Mais à la limite, c'était de s'en débarrasser pour moi. Et on essaie de faire de prendre nos trucs puis de les projeter dans la vie des autres. Et c'est ça. Ça n'a pas toujours porté des beaux fruits. Hein, Chantal? Elle peut vous en parler en masse de ça. Mais, hein? Non, mais... Petit... Vas-y, chérie, viens-t'en. Je vois mieux. Bon, tu vois, il y a de la lumière qui perce, qui resplendit à force de marcher.
Parce que là, tu nous as inquiété, Étienne, on pensait que tu étais de la descendance des amis de Job.
Oui, de la descendance des amis de Job. On va en parler des amis de Job ce matin, justement. Très brièvement, mais assez pour comprendre. Mais oui, effectivement, il y a une période dans ma vie où est-ce que, écoutez, tout ce côté-là était complètement absent dans ma vie. Et quand on est jeune, on est convaincu qu'on a la solution à tout, puis qu'on a compris, et puis que c'est les autres qui n'ont pas compris. Et puis on y va avec vigueur et assurance dans ce qu'on croit être juste. Mais en réalité, la vie et les circonstances nous apprennent que faut avoir plus d'humilité que ça. Et c'est beaucoup plus complexe qu'on pense. Mais la présence de Jésus, elle, fait une différence positive. La présence de Jésus fait toute la différence. Et c'est de se rappeler ces vérités-là qui vont faire en sorte que, au fur et à mesure qu'on marche dans nos souffrances, qu'on marche dans nos ténèbres, dans la noirceur, bien, il va y avoir des rayons de lumière qui vont percer. Il y a une journée où est-ce qu'à un moment donné, il va se passer quelque chose. Le Seigneur va se manifester à travers un frère, une circonstance, une parole qu'on va lire dans les Écritures, un chant qui nous revient, un verset, un texte, ou peu importe. Il y a quelque chose où est-ce qu'il y a une lumière qui va commencer à apparaître. Et au fur et à mesure que l'on marche, que l'on persévère, bien, la lumière du jour va se lever. On n'est pas dans les ténèbres pour toujours. Et de là l'importance de comprendre que les souffrances, ça fait partie de la vie et on a à les traverser et que nous ne sommes pas seuls. Comme on a vu, la culture d'aujourd'hui nous apprend à éviter le plus possible ces tempêtes-là, à les éviter et à s'en protéger, à se cacher et d'attendre qu'elles passent. C'est ça que la culture nous enseigne. Mais ce qu'on voit dans les Écritures est tout autre. Les Écritures nous disent, il faut les traverser. On n'a pas à les fuir, il faut les traverser. Mais nous ne sommes pas seuls. Ça rassure quand on a des choses à traverser de ne pas être seul. Et de savoir que celui qui est avec nous a déjà vécu beaucoup plus pire que ce que nous, on est en train de traverser. Et de savoir qu'il nous aime, qu'il a compassion de nous, qu'il se soucie de nous Ça fait toute la différence. Quand on est dans la souffrance, les activités quotidiennes et régulières de la marche en tant que croyant en train de souffrir, quelles sont-elles? Quels moyens particuliers devons-nous utiliser pour maintenir une communion avec Dieu et devenir plus fort et non plus faible pendant nos périodes difficiles? Parce qu'on a vu la semaine passée aussi que ces souffrances-là, ces pressions-là qui sont mises sur nous, en réalité, sont des opportunités également d'éprouver notre foi, de purifier notre foi en Jésus, en Dieu. Donc, elles ne sont pas des menaces, elles sont en quelque sorte également aussi des opportunités pour grandir dans notre relation avec Dieu, pour purifier nos foies, notre foi, et que notre appui sur Dieu devienne de plus en plus grand et de plus en plus réel, fondé sur son roc, et non juste une adhérence intellectuelle à Dieu, conceptuelle, mais concrète. Et la parole nous enseigne qu'il y a plusieurs moyens choisis par les personnages qu'on voit dans les Écritures, les personnes dont leur histoire nous est relatée dans les Écritures, qui ont utilisé pour gérer leur souffrance. Et on va prendre le temps de regarder dans les prochaines semaines. On a déjà regardé un aspect, bien, la parole de Dieu nous appelle à marcher. Hein? C'est ce qu'on a vu la semaine passée. Elle nous appelle à marcher, à ne pas arrêter, à ne pas stagner pour ne pas sombrer. Le Seigneur nous dit qu'on a à marcher tous les jours, mais à marcher avec Lui. Et on le voit dans plein de passages dans les Écritures. De marcher avec le Seigneur fait toute la différence. La deuxième chose, on voit que les pleurs, de pleurer, ça fait partie des éléments essentiels si on veut se sortir de nos souffrances. Après ça, l'autre élément, c'est faire confiance et de prier. C'est un autre élément. Par la suite, penser, l'aspect de réfléchir, de remercier. Après ça, aimer et espérer. Donc, si vous voulez les prendre en note, il y a marcher, pleurer, faire confiance et prier, penser, remercier, aimer et espérer. Et il n'y a pas nécessairement d'ordre précis dans tout ça, OK? Ces activités constituent des stratégies qui se complètent les unes les autres. On peut pas en mettre une de côté, c'est un tout. Cependant, en fonction de la souffrance, du tempérament de la personne, le côté unique des circonstances, ben, vont déterminer laquelle vont prendre plus de place dans la vie d'une personne pour contribuer à ce qu'elle s'en sorte. Donc, il n'y a pas de schéma acquis. Il ne faut pas considérer ces stratégies comme une série d'étapes précises, ni penser qu'elles revêtent la même importance pour toutes. Chaque chemin est unique dans la souffrance. Et ça, je le répète, chaque chemin est unique dans la souffrance. Je ne traverse pas mes souffrances comme mon épouse traverse ses souffrances. Chaque personne est unique. Et c'est pas que quelque chose a marché pour nous que c'est la solution pour toi. Chaque situation de souffrance doit être abordée premièrement avec humilité. Vraiment avec humilité. Qu'on soit marché, on le fait au quotidien, mais qu'on soit rendu à pleurer, à faire confiance, à prier, dans la pensée, dans les remerciements, la reconnaissance, qu'on soit rendu à l'étape de aimer et espérer, peu importe. Chacune de ces choses-là sont importantes et on va prendre le temps de les regarder plus en profondeur dans les prochaines semaines. Et ce matin, on va parler d'une activité que peut-être les femmes aiment plus que les hommes. C'est quoi, vous pensez? Pleurer! C'est pour vous taquiner aussi. Là. Il y en a des gars qui sont braillards aussi. Là. Hein? C'est correct. On s'améliore. Non, pas toutes les femmes qui sont braillards non plus. Là. C'est un stéréotype de la société. Mais en général, les gens qui chialent, on aime tout ça. Les gens qui pleurent, on n'est pas nécessairement prompt à exprimer notre tristesse. dans la culture dans laquelle on vit. Dans certaines cultures, c'est encore pire, mais dans d'autres, c'est moins pire, mais c'est présent aussi. C'est pas nécessairement quelque chose avec lequel on est à l'aise. Et c'est quelque chose qui nous vient de loin. Même dans les églises, c'est quelque chose qui nous vient de loin. Dans son livre « La réforme de la souffrance », Ronald Ridger, une affaire de même, on l'appelait Ronald, raconte comment Luther et les réformateurs allemands, et ça remonte de loin, là, dans les années 1500, les réformateurs allemands ont recherché à restaurer une approche plus biblique de la souffrance. Pour eux, l'Église médiévale, en prônant la patience dans la souffrance comme voie de salut, était tombée dans une nouvelle forme de stoïsme. Stoïsme, ça veut dire t'es fort, t'es implacable, t'as pas d'émotion, t'es un bloc, t'es stoïque. Et c'était quelque chose qui était très, très présent, même dans la culture de l'Église. Donc, l'Église était tombée dans une nouvelle forme de stoïsme qui était semblable à la culture païenne. Par la suite, les luthériens soutenaient avec virulence que Jésus avait porté tous nos châtiments, notre châtiment pour le péché. Par conséquent, nul besoin de gagner l'aide du Christ. Il nous faut avoir l'assurance que dans notre malheur, il est avec nous et nous garde dans la sphère de son amour. Donc, même devant la souffrance, on doit absolument rester ferme dans la conception que Dieu nous garde, on est dans la sphère de son amour, coûte que coûte, fait que nos souffrances, on n'a pas nécessairement besoin d'en tenir compte. L'Église luthérienne a tout de même suivi l'Église médiévale sur un point. Elle a ignoré la notion importante de lamentation comme réaction normale aux difficultés et à la détresse. Selon Ronald, dans leur souci de ne pas douter de l'amour de Christ, les luthériens ont minimisé la légitimité de se lamenter. Il soutient que les premiers réformés ont créé une culture dans laquelle douter ou se plaindre était mal vu. On enseigne aux chrétiens à retenir leurs larmes et à montrer leur foi en Dieu en acceptant sa volonté dans la joie sans broncher. Ça résume le reste, okay, de ce que j'ai dit. Ça vient de loin. Ça vient de l'Église médiévale. La conception que les gens avaient de la présence de Dieu dans leur vie et de leur foi. De pleurer et de remettre en doute, d'exprimer ton désaccord avec ta situation, ça en revient à remettre Dieu en doute dans sa souveraineté, dans son amour pour toi. Et ça, c'est inacceptable parce que c'est une erreur. Peu importe comment est-ce que tu te sens, Dieu t'aime. Et son but n'est jamais de te détruire, même si les circonstances semblent dire l'inverse. Et pour l'Église médiévale, l'Église luthérienne, qui est la première Église du branche du protestantisme, c'est de là dont notre branche est issue bien des années plus tard. Mais cette culture-là a été quand même gardée et renforcée à travers le temps. Ce qui fait qu'en réalité, on est encouragé à quoi? À retenir nos larmes, à retenir ce qui se passe réellement en dedans et à mettre de côté un élément qui est pourtant bien présent dans les Écritures, les lamentations. Avez-vous déjà lu les Lamentations de Jérémie? Tu es justement là-dedans. Comment est-ce que tu vis ça, les Lamentations de Jérémie? Il est honnête, il est sincère, mais écoute, c'est toute qu'une leçon. Ça en est déroutant de voir l'honnêteté de Jérémie. Ça en est déroutant de voir l'honnêteté de David dans les psaumes. C'est déroutant de voir l'honnêteté de Job dans ce qu'il a vécu dans le livre de Job. Ça en est déroutant. On voit vraiment, on vit avec un malaise avec ça. Moi, je me demande, coudonc, serais-tu capable de me lamenter jusque-là? Il me semble que je suis tellement rendu bon à avaler ma pilule puis à dire, c'est pas grave, Seigneur, je te fais confiance, je te remets tout. Tout est à toi là-dedans, puis c'est bon, on continue, puis on marche. Mais c'est-tu bon de faire ça?
C'est du déni,
c'est un mensonge. Non seulement tu te comptes des mensonges, mais tu comptes un mensonge à Dieu puis à tous les autres autour de toi. Vraiment, là. Et ça nourrit notre psychose spirituelle. J'en reviens encore avec ça parce que c'est tellement vrai. On a de la misère à accepter les faits, à voir les choses comme elles sont réellement. Donc, on se raconte des histoires pour que ça passe. Mais c'est un peu la même chose. L'honnêteté qu'on voit dans les Écritures par rapport aux lamentations, elle est déroutante. Et ça va jusqu'à remettre Dieu en question. À la limite, ça va même qu'à être en colère et offensant envers Dieu. Ça le nargue. T'es où, Dieu? Combien de temps tu vas nous oublier encore? Mais ça, tu fais rien. T'es où? Est-ce que t'es le Dieu des morts? T'attends-tu qu'on soit mort pour te louer? C'est les paroles de David. C'est les paroles de Jérémie aussi. Donc, les lamentations sont présentes dans les Écritures, mais pourtant, dans la façon dont on est encouragé de vivre notre vie chrétienne, on est encouragé à dire, si tu te lamentes, tu remets Dieu en question, et ça, c'est un péché non pardonnable. On ne peut pas se permettre de faire ça. Et si on voit un frère, une sœur qui le fait, qui le vit, c'est au-delà de ses forces, et elle se plaint, qu'est-ce qu'on fait? Seigneur nous dit de nous réjouir dans nos souffrances. Qu'est-ce que tu es en train de faire, mon frère, ma sœur? Et là, on la remet en question. Et on lui dit, prends-toi en main, botte-toi le derrière, puis tu vas voir, demain, ça va aller mieux. Puis si tu ne le fais pas, bien, tu vas continuer à sombrer, puis tu n'es pas en train de glorifier le Seigneur dans l'état d'être dans lequel tu te trouves présentement. C'est ça qu'on fait, ou c'est ça qu'on est habitué de voir ou de faire. Ce que ça fait que quand on souffre en réalité, on est encouragé à se mentir à nous-mêmes et à mentir aux autres, et ultimement à Dieu. On aime Dieu, même si on souffre, et on ne veut pas pécher contre lui. On veut pas tomber en offense contre lui. Donc, on essaye de se convaincre qu'on est dans la joie.
C'est parce qu'il dit aussi, dans la parole, pas d'épreuve au-delà de tes forces.
Pas d'épreuve au-delà de tes forces, oui.
Moi, je me rends compte que souvent, quand les gens disent ça, c'est souvent dit hors contexte. C'est parce que des fois, moi, je vais regarder des gens qui vont vivre des affaires qui sont humainement tolérable, là, ce que je peux dire. Puis au-delà, il y a des choses qu'un être humain ne peut pas supporter,
ouais.
À moins.
C'est vrai. Ben c'est ça. Ouais. C'est là que la différence de la présence de Dieu vient tout changer. Il y a des souffrances qui nous surpassent, qui nous ramassent comme des rats de marée peuvent nous ramasser, où est-ce qu'on perd le contrôle total? Et oui, à ce moment-là, on est submergé. Oui, on est dans la fournaise. Et seul, on ne peut pas survivre.
Seul, c'est au-delà.
Oui. Et c'est pour ça que la présence de Dieu fait toute la différence. Et c'est pour ça, c'est le premier élément qu'on a parlé sur le concret de comment traverser la souffrance, c'est de marcher. Bien, de marcher avec Dieu. Et de se souvenir et de se rappeler que même si on croit être seul, être dans le noir, submergé, nous ne le sommes pas. Et c'est de s'accrocher à ces vérités-là qui vont faire en sorte qu'il y ait des lumières qui vont apparaître. Le lever du soleil va finir par arriver. Combien de temps ça va prendre? Aucune idée. Il n'y a personne qui peut le dire. Mais ça va finir par arriver d'une façon ou d'une autre. Mais la présence de Dieu fait toute la différence. Vraiment. Oui, parce que des fois, on s'imagine pas être capable de traverser ce qui est devant nous. Et humainement parlant, il y a des choses qui nous sont arrivées qui sont vraiment des fois impardonnables. Humainement parlant, on ne peut pas pardonner ce qui nous est arrivé, ce qu'on nous a fait subir. C'est possible de se retrouver dans cette situation-là. Et c'est pour ça que la présence de Dieu vient faire toute la différence. Parce qu'il y a des situations que lui seul est capable de pardonner. Et en lui apportant la situation, Dieu la pardonne. Et en voyant Dieu pardonner cette situation-là, il nous transmet son pardon. Dieu le pardonne à travers nous. Et après ça, ça rend le pardon accessible et faisable pour nous aussi. Ça fait partie des épreuves, ça fait partie des souffrances qui sont au-delà de nos forces, mais la présence de Dieu vient faire toute la différence. Mais de retenir nos larmes, de montrer notre foi en Dieu en acceptant sa volonté dans la joie sans broncher. Est-ce que c'est réellement le modèle qu'on a dans les Écritures? C'est important d'avoir la foi. C'est important de rester constamment accroché à Dieu. Mais est-ce que ça veut, d'une façon directe, dire qu'on n'a pas à être honnête avec ce qu'on vit, avec ce qui se trouve dans notre cœur? Est-ce que c'est ça que ça veut dire, de trouver notre joie en Dieu? De regarder comme un sujet de joie les diverses épreuves auxquelles vous êtes exposés? C'est-tu ça que ça veut dire? On va probablement prendre le temps de regarder ça beaucoup plus en profondeur la semaine prochaine. Mais la première étape, c'est de comprendre et de voir que ce qu'on a dans les Écritures, la présence des lamentations, elle est là. Et ça fait partie d'une étape essentielle. On ne peut pas l'éviter. L'étape d'être honnête avec ce que l'on vit réellement, de tout exprimer, d'être un livre ouvert, c'est essentiel si on veut réellement voir la lumière au bout du tunnel. Si on veut réellement marcher avec Dieu, ça prend la vérité. S'il n'y a pas de vérité, on se cache de Dieu. Il n'y a pas de mensonge avec Dieu. Et quand on demeure dans sa lumière, comme il nous dit de demeurer dans sa lumière, on voit les choses telles qu'elles sont. On les assume. On les voit. On les exprime. Quand on regarde Job, par exemple, au premier chapitre, lorsqu'il apprend la mort de ses enfants et la perte de ses biens, comment Job réagit? On va aller voir le livre de Job, chapitre 1. Verset 20. Il dit quoi? Il dit, « Alors Job se leva, déchira son manteau et se serra la tête. Puis, se jetant par terre, il se prosterna et dit, « Nu, je suis sorti du sein de ma mère, et nu, j'y retournerai. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. » Job, il s'est levé, il a déchiré son vêtement, il s'est jeté à terre, il s'est pris la tête, il s'est humilié. Il a crié. Et verset 22, ça dit, « Au milieu de tous ses malheurs, Job ne commit pas de péché. » Pourtant, il s'est exprimé. Il n'a pas dit, « Merci Seigneur, yes, je suis dans la joie, une épreuve de plus à traverser. » Il a déchiré son vêtement, qui est un geste de désarroi profond, d'une détresse intérieure. Tu ne faisais pas ce geste-là à la légère. C'est que ce qui venait de t'arriver était foudroyant dans ta vie. Et il se jette par terre et il s'humilie pour se prosterner. Job n'attribua rien d'injuste à Dieu. Effectivement, il a fait confiance, mais il a quand même exprimé sa douleur. Et tout le long du livre de Job, on le voit. Un homme qui se comporte déjà d'une manière que de nombreux chrétiens pieux jugent inconvenable ou qui révélait son incrédulité. Il déchire ses vêtements, tombe à terre et proteste. Il ne fait preuve d'aucune patience stoïque, insensible. Mais le texte précise, Job ne commit pas de péché. Au milieu du livre, Job, quand on continue, maudit le jour de sa naissance. Il a deux doigts d'accuser Dieu d'injustice dans ses questionnements empreints de colère. Pourtant, quand on va à la fin du livre, Job 42, versets 7 et 9, qu'est-ce qui est dit de Job? Verset 42, versets 7 à 9. « Après que l'Éternel eut adressé ses propos à Job, l'Éternel dit à Éliphaz et Théman, Ma colère est enflammée contre toi et contre tes deux amis, parce que vous n'avez point parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. Prenez maintenant 7 taureaux et 7 béliers, allez auprès de mon serviteur Job et offrez pour vous un holocauste. Mon serviteur Job priera pour vous, et comme j'ai de la considération pour lui, je ne vous traiterai pas selon votre folie, car vous n'avez point parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. Wow! Malgré tout ce que Job a fait, Dieu pose un regard favorable sur lui, même s'il n'a pas toujours été politiquement correct. Et lui-même, Job, le reconnaît. Hein? Juste un peu plus tôt, qu'est-ce qu'il dit? Chapitre 42, verset 1, Job répondit à l'Éternel, « Je reconnais que tu peux tout et qu'aucune réflexion n'est inaccessible pour toi. Qui est celui qui assombrit mes desseins par des propos diminués de connaissances? Oui, j'ai fait part sans les comprendre des merveilles qui me dépassent et que je ne connaissais pas. Écoute, moi, et moi, je parlerai, c'est l'Éternel qui parle un peu. Après, c'est bonne place. Écoute-moi, et moi, je parlerai, je t'interrogerai, et tu m'instruiras. Mon oreille avait entendu parler de toi, c'est ça. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. Job reconnaît qu'il a été trop loin. Mais est-ce que Dieu lui en tient rigueur? Qu'est-ce que ça nous enseigne, ça, sur la personne de Dieu? Que Dieu comprend l'être humain. Que Dieu comprend la complexité de l'être humain. Et la souffrance, s'il y a bien une chose qui peut nous faire faire des choses qu'on n'aurait jamais imaginé faire, c'est la souffrance. Ou nous faire dire des choses qu'on n'aurait jamais imaginé dire, c'est bien la souffrance. Et on voit à travers l'exemple que Job, que Dieu est capable de le comprendre. Que d'être honnête avec nous et avec où est-ce qu'on se situe dans notre souffrance et dans notre état actuel maintenant, que ce n'est pas un péché de le voir et de le constater et de l'exprimer. Dieu ne nous en tient pas rigueur. Parce que ça fait partie du processus d'accepter notre état actuel, de le reconnaître, de l'exprimer à la bonne personne, de la bonne façon, de le vivre, mais de le vivre avec Dieu. Job a questionné Dieu. Job réfléchissait, questionnait Dieu. Il n'est pas parti à cause de sa souffrance, de sa blessure, puis de faire de la médisance à gauche puis à droite dans le but d'éloigner les gens de Dieu. Parce que finalement, Dieu l'avait abandonné. Regardez, est-ce que c'est ce que Job a dit? Est-ce que c'est ce que Job a fait? Absolument pas. Job a continué de marcher avec Dieu. Il exprimait les choses telles qu'elles étaient à Dieu et à ses amis qui étaient là autour de lui. Il partageait à sa famille, à ses proches, ses questionnements. Il cherchait du soutien. Il cherchait compréhension dans ce qu'il vivait. Une consolation dans ce qu'il vivait. Mais il marchait constamment avec Dieu à travers sa souffrance. Et Dieu ne lui tient pas rigueur. Job exprimait son chagrin avec des émotions fortes et une rhétorique explosive. Il n'a pas été gentil avec Dieu en priant poliment. Il a dévoilé ses sentiments avec une honnêteté féroce. Même si Dieu force Job à reconnaître son insondable sagesse et sa majesté, à la fin, Dieu, il n'en tient pas rigueur à Job. Par conséquent, il n'est pas convenable de dire à une personne, dans une grande tristesse, de se ressaisir. Nous devrions être plus doux et patients avec elle, et nous, avec nous-mêmes également, quand on est dans la souffrance. Nous ne devrions pas partir du principe que si nous faisons confiance à Dieu, nous ne pleurerons pas, nous ne ressentirons aucune colère ni désespoir. C'est un mensonge de croire que c'est comme ça que Dieu veut qu'on le vive. Dans Ésaïe 42, il décrit le mystérieux serviteur qui souffrira. Et le Ésaïe 53 nous révèle que ce serviteur-là portera le poids de nos transgressions afin que par sa souffrance, notre condamnation soit effacée. Dans Ésaïe 42, verset 3, ça dit, « Il est dit du serviteur, « Il ne brisera pas le roseau qui se ploie. » Dans Ésaïe 42, verset 3, « Il ne brisera pas le roseau qui se ploie. Il n'éteindra pas la flamme qui faiblit, mais il établira le droit selon sa vérité. » Et ce serviteur-là, c'est qui dont il nous est parlé dans Ésaïe 42 puis Ésaïe 53? C'est Jésus-Christ. Il est dit de Jésus qu'il ne brisera pas le roseau qui se ploie. Le roseau qui se ploie, le terme « être plié » ne décrit pas une blessure bénigne, mais il s'agit d'une lésion profonde qui détruit un organe interne vital. C'est un coup fatal. Quand un roseau est plié, bien, ce qui est cassé forme un angle. Et puis, tout ce qui est là va produire aucun fruit. Il est mort. Tout ce qui est au-delà du pli est mort. Donc, c'est un coup fatal. Pourtant, ce serviteur qui est Jésus peut accomplir ce qu'aucun autre ne peut faire. Il peut le guérir pour qu'il produise à nouveau. Jésus ne brisera pas le roseau qui ploie et n'éteindra pas la mèche qui fume encore. Jésus, le serviteur, est donc attiré par les cas désespérés. Il prend soin des personnes fragiles. Il aime ceux qui sont maltraités, battus, couverts de bleu. Il ne le montre pas. Les gens ne le montrent peut-être pas de l'extérieur, mais à l'intérieur, ils sont brisés. Ils veulent mourir à l'intérieur, souvent. Ce n'est pas juste physiquement extérieur. Puis Jésus voit au plus profond des cœurs de ces personnes-là. Et il sait ce qu'il faut faire. Le Seigneur guérit les cœurs brisés. Et il panse nos blessures. Dans Psaume 147, 3, puis Ésaïe 61, verset 1. L'Éternel guérit les cœurs brisés et panse nos blessures. Quand une personne souffre, ce qu'elle a besoin, c'est d'amour. Ce qu'elle a besoin, c'est de souffrance. C'est de compassion puis de présence. C'est de ça qu'elle a besoin, dans sa souffrance. De prendre la personne, de la shaker puis de dire, « Hey, tu manques de foi, là, fais attention, tu prends un sentier dangereux. Tu vas pécher, fais attention. » On est en train d'encourager la personne à se mentir à elle-même, à te mentir à toi, puis à mentir à Dieu. Est-ce qu'on est en train de la diriger dans le bon sentier? On manque de compassion, mais non seulement ça. On est en train de la séparer de Dieu. On n'est pas en train de l'encourager d'aller vers Dieu. Absolument pas. Parce qu'elle va oublier que Dieu est un Dieu d'amour et de compassion qui te prend tel que tu es, là où tu es, comme tu es, et il te prend avec amour et compassion et il te restaure. Tu n'iras pas vers quelqu'un qui va te taper sa tête quand tu es déjà à terre. Jamais. Comment est-ce que Dieu a traité Élie dans Un Roi? On peut tourner dans Un Roi. Comment est-ce que Élie a été traité par Dieu? Un Roi, verset 18. Chapitre 18. Merci. Un Roi 18. Élie, dans ces passages-là, 18-19, il a craqué sous le poids de son ministère. Ça a beau être un grand homme, un grand prophète, ça reste un humain qui a une tolérance limitée à l'échec, à l'opposition et aux difficultés. Élie est un humain. Il déprime et a même des tendances suicidaires quand on regarde chapitre 19, verset 4. Ça dit, « Quant à lui, il alla dans le désert à une journée de marche. Il s'assit sous un guêne et demanda la mort en disant, « C'en est trop. Maintenant, Éternel, prends ma vie, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Élie est vraiment désespéré, puis il demande la mort. Il vacille. Sa flamme va s'éteindre. Il est désespéré. Il ne gère du tout, vraiment pas bien, sa souffrance et son stress. Il n'est pas en train de dire « Je me réjouis dans le Seigneur ». Non, il veut mourir. Enlève mon cellulaire de... Ouais, c'est ça. Il veut mourir. Alors, Dieu lui envoie un ange. Et qu'est-ce que l'ange fait? Verset 4 à 8. Chapitre 19. Je reviens en arrière. Quant à lui, on l'a lu, verset 5. Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Or, voici qu'un ange le toucha et lui dit, « Lève-toi, mange. » Il regarda et il avait à son chevet un gâteau sur des pierres chaudes et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, « Lève-toi, mange, car le chemin serait trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but. Avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a reconnu que c'était un humain et que la première chose qu'il a faite, c'est qu'il l'a touché. Il dit, t'es pas tout seul, je suis là. Il a été d'une main douce, puis il a pourvu à sa nourriture, pourvu pour le repos. Il a compris qu'il était exténué. Puis, il a pas dit, hey là, ce que tu viens de dire, là, t'es en train de remettre en question ma souveraineté. Tu es en train de remettre en question ma gloire. Tu es mon prophète. Tu as oublié tout ce que tu as fait, tout ce que j'ai fait à travers toi avant? Absolument pas. De la compassion, de l'amour et de la présence. Et par la suite, Dieu a parlé à Élie. Et par la suite, Dieu s'est exprimé d'une façon que Élie a compris ce que Dieu voulait lui communiquer. Il a remis en question la perspective d'Élie, qu'il était rendu tout seul puis qu'il n'y avait plus personne d'autre. Dieu lui a ouvert les yeux sur les faits, sur la réalité, et a amené Élie à se remettre en question. Dieu savait ce qu'Élie avait besoin. On peut s'en remettre entièrement à Dieu et dans nos relations à nous, les uns envers les autres. Avoir conscience qu'on est des humains. Et la première chose qu'une personne qui est dans la détresse a besoin, c'est une présence. D'être touché, qu'on réponde à son besoin, qu'il se trouve dans un endroit où est-ce que le réconfort est possible, qu'il se trouve dans un endroit où est-ce qu'il y a de l'amour et de l'accueil, peu importe ce que tu as sur ton cœur. Il y a quelqu'un qui est là, qui l'écoute, qui le reçoit, sans te condamner, sans te juger, parce qu'il comprend très bien que les propos que tu as là, c'est les propos d'une âme qui souffre. Comme Job. Et ça fait partie d'un processus, ça fait partie d'un tout. On comprend que le désir de la personne n'est pas de rester là à tout jamais. Donc, d'agir les uns envers les autres, comme Jésus, comme Dieu a agi envers Élie et envers nous également. De comprendre que Dieu est un Dieu, que Jésus est un serviteur rempli de compassion et d'amour qui n'est pas là pour donner le coup de grâce à celui qui est déjà amoché, mais qui est là pour restaurer, guérir les cœurs. Il y a un grand pasteur puritain du 17e siècle qui s'appelle Richard Sibbes, qui a écrit ceci. « Pour comprendre l'image de la compassion de Christ envers les roseaux abîmés, songeons à ces noms empruntés aux créateurs, aux créatures les plus humbles, un agneau et une poule qu'on voit en Luc 13. C'est des animaux qui sont fragiles. Souvenez-vous que Jésus guérit les cœurs brisés. » Isaïe 61, que le Saint-Esprit est venu à lui lors de son baptême sous forme d'une colombe pour montrer qu'il pouvait être un médiateur doux comme une colombe. Écoutez son invitation. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. En Matthieu 11, 28. C'est un médecin qui connaît toutes les maladies. Il est mort pour guérir nos âmes avec le médicament de son propre sang. N'ayez jamais peur d'aller à Dieu, puisqu'en lui, nous avons un médiateur tel qu'il est non seulement notre ami, mais aussi notre frère et un mari. Gardons cela à l'esprit quand nous sommes blessés. Si Christ est assez compatissant pour ne pas me briser, je ne me détruirai pas par désespoir. Par conséquent, les personnes qui souffrent doivent pouvoir pleurer et épancher leur cœur sans être immédiatement empêchées par des leçons morales. Nous ne devrions pas non plus nous les infliger quand nous sommes dans la peine. On les inflige souvent aux autres, mais bien souvent, on se les inflige à nous-mêmes également quand nous sommes dans la souffrance. Beaucoup de choses qu'on savait déjà, mais c'est tellement important de le vivre en pratique et non seulement juste d'une façon intellectuelle. Et c'est souvent là que ça bug. On a de la difficulté à aller vers les gens qui souffrent, même que ce soit un frère, une sœur, parce que souvent, nous-mêmes, dans notre vie, on veut éviter la souffrance. Fait que pourquoi aller vers une personne qui est en plein dedans? On n'aime pas ça. On se sent mal avec tout ce bouleversement-là. Fait qu'on fuit, on évite, au lieu de s'accompagner, d'être présent et d'être l'ange que Dieu a envoyé à Élie pour cette personne-là. Dieu nous appelle, on est l'Église, hein? Il nous appelle à prendre soin, à se réjouir avec ceux qui se réjouissent, mais aussi à pleurer avec ceux qui pleurent. Ça fait partie de nos rôles. Et d'offrir une présence, d'offrir simplement l'amour, une oreille, vont faire toute la différence pour ceux qui souffrent quand on souffre. Donc, marcher avec Dieu et d'accepter de pleurer, de se lamenter, de l'exprimer et de le vivre avec Dieu. Allons dans la prière. Oui, Seigneur Jésus, c'est vers toi qu'on se tourne. C'est vers toi qu'on veut aller, Père éternel. Parce que tu es le Dieu compatissant. C'est toi, Père éternel, qui guérit, c'est toi qui restaure, Seigneur Jésus. On a tellement besoin de toi, tellement besoin de ta présence. Seigneur, souvent on oublie ta présence quand on est dans la souffrance. On oublie, Seigneur Jésus, ta compassion. Et Seigneur, on se détourne et on sombre. Seigneur Jésus, ne permets pas qu'on demeure, Seigneur Jésus, dans le mensonge que nous sommes seuls. Que l'on oublie, Seigneur Jésus, ta compassion, ton amour. Souvent, Père éternel, il y a des gens autour de nous qui nous le font oublier également. Qui nous rappellent, Seigneur, ou qui nous envoient l'image que tu es un Dieu juge, plein de jugement, de condamnation, Père éternel. Ça nous éloigne. Père éternel, préserve-nous. Préserve-nous, Seigneur Jésus, de ces gens, de ces personnes qui, malheureusement, croient bien faire, mais qui oublient ton amour, ta compassion. Père éternel. Père éternel, que l'on soit entouré de ton amour, de ta présence, à chaque instant. Rappelle-nous, Seigneur Jésus, ton amour. Viens, Seigneur, nous apporter la consolation qu'on a besoin, peu importe notre situation. Que ce soit à travers un frère, une sœur, que ce soit à travers tout autre moyen, Seigneur Jésus, apporte-nous ta consolation. Que nos cœurs se souviennent que tu es un Dieu rempli d'amour, que tu n'es pas un Dieu qui juge, qui condamne. Jésus-Christ a pris sur lui toute condamnation, Père éternel. Seigneur, viens faire cette œuvre dans chacune de nos vies, dans chacun de nos cœurs, Père éternel. Et donne-nous, Seigneur Jésus, de ne pas fuir cette souffrance, de ne pas fuir les gens autour de nous qui souffrent, mais d'avoir la même compassion que tu as pour eux. Que, Seigneur Jésus, nos cœurs soient alignés avec le tien. Que l'on voit les gens, la vie, à travers toi, à travers ton amour, ta compassion, Seigneur Jésus. Parce que premièrement, nous l'avons reçu. Seigneur, c'est dans le précieux nom de ton Fils Jésus-Christ qu'on te prie. Amen.